affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Comme chacun sait, notre pays, notre continent, notre civilisation peut-être traverse aujourd'hui une profonde crise. Une crise qui n'est pas seulement économique ou financière bien sûr, mais une crise également politique, sociale, pourquoi ne pas oser le mot, une crise morale. Dans ce contexte, porteur d'une forte incertitude, d'un sentiment de décadence, d'inquiétude aussi, chacun cherche des raisons d'espérer, des moyens de conjurer les périls, de sortir par le haut précisément de cette crise diffuse et multiforme. C'est précisément ce que nous propose notre invité de ce jour. Nous avons en effet la joie et le plaisir de recevoir dans notre studio Jean-Luc Marion. Jean-Luc Marion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, professeur en exercice à l'université de Chicago, où vous enseignez la philosophie. Vous avez également été conseiller du cardinal Lustiger, dont vous avez pris la suite à l'Académie française. Et c'est effectivement en philosophe catholique, j'allais dire en philosophe et en catholique, que vous avez décidé d'aborder les multiples aspects de cette crise et des moyens d'en sortir avec, plus que cette intuition, cette proposition... Qu'elle pourrait être l'occasion d'un moment catholique et que ce moment catholique permettrait, à travers notamment l'action des catholiques dans la cité, de résoudre la situation morale délicate dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce bien ça le résumé du propos ?
On peut le dire comme ça, très bien.
Peut-être faut-il d'abord décrire le moment dans lequel se déroule cette intuition. À un moment, vous dites non, ce n'est pas une crise, c'est plus grave, c'est de la décadence.
Oui, je pense qu'il faut faire la distinction, car l'usage je crois que c'est 1974, le premier choc pétrolier. Et j'étais encore débutant dans la carrière à l'époque. Depuis ce moment-là, on a parlé d'une crise économique, une crise industrielle, une crise de la société française. C'était aussi le moment où on percevait les conséquences réelles, qui furent non pas politiques, mais sociologiques, de mai 68. Et on a commencé à parler de crise. Ça a correspondu d'ailleurs aussi au début de la longue période dont nous ne sommes pas sortis, nous en sortirons peut-être bientôt, des budgets de l'État français en déficit constant. Eh bien, à partir de ce moment-là, on a parlé de crise. Et c'est intéressant de voir que nous parlons de crise depuis des dizaines d'années. Et bien entendu, c'est beaucoup trop long pour être une crise. Et d'ailleurs, c'est même contradictoire, puisque une crise... au sens médical, au sens militaire, au sens même économique. C'est un moment d'explosion de la maladie, de la bataille, de la déroute financière, où on est contraint de prendre des décisions. Et on peut prendre des décisions. Et lorsqu'on ne peut pas prendre des décisions, au sens étroit du terme, on devrait dire qu'il n'y a pas de crise. Donc nous sommes... si on veut, dans une crise de la crise, puisque ça fait 30 ou 40 ans que nous sommes en crise. Et c'est donc que l'origine de notre mal n'est pas des décisions mauvaises qui eussent été prises. Ce ne sont même pas que de bonnes décisions n'ont pas été prises, c'est qu'on n'a pas pris de décision. Comme disait un président de la République, contre le chômage, on a tout essayé. Alors, d'autres répondent, sauf ce qui marche, mais précisément, on n'a pris aucune décision, dans un sens ou dans l'autre. Quand on est ainsi dans une situation où la catastrophe arrive et se prolonge, comme une voiture qui dérape sur le verglas Et le conducteur ne sait pas piloter, et il ne fait rien, il n'a rien à faire, il ne sait pas quoi faire, et on se voit glisser, plus ou moins vite, mais de manière inéluctable, vers le fossé. Eh bien, dans ce cas-là, on est dans une décadence, on n'est pas dans une crise. Et moi, je suggère que nous ne sommes pas en crise, nous sommes en décadence. En 1958, en 1940, en 1936, la France était en crise. Et des décisions ont été prises, bonnes ou mauvaises, on peut en discuter. Mais nous, depuis 1974, aucune décision n'a été prise. Et c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave parce que, d'une certaine manière, l'État n'assure plus la direction de la nation, où la nation n'est plus capable d'imposer à l'État d'assurer la direction de la nation. Et je pense que la défiance, la crise de confiance entre les gouvernés et les gouvernants vient du fait que les gouvernés voient très bien qu'ils ne sont pas gouvernés. Donc nous sommes dans une situation de décadence et pas une situation de crise. Alors, c'est cette découverte qui... c'est une des raisons qui m'a poussé à prendre la parole. Et je me suis posé la question ainsi... pourquoi est-ce que les décisions ne sont pas prises ? Peut-être est-ce parce que les problèmes sont mal identifiés. Et parmi ces problèmes, me semble-t-il, il y en a un plus général, qui est que les questions ne sont jamais posées au niveau où véritablement elles se décident, c'est-à-dire... Elle ne se décide pas au niveau économique, administratif, pas seulement, ni même de la géopolitique, ni même au niveau culturel. Elle se décide finalement au niveau de la possibilité pour une nation de faire véritablement une de constituer véritablement une communauté. Et pour constituer une communauté, c'est mon hypothèse, il faut beaucoup plus que des élections, que des identités, qu'un principe identitaire, il faut une communion. Et la question est de savoir, est-ce qu'une communion, pas seulement un accord, un compromis, mais une communion, est possible dans la société française ? On va le dire autrement. La société française s'est constituée en république et a pris pour devise liberté, égalité, fraternité. Nous savons que la liberté pose déjà beaucoup de problèmes, puisque selon les niveaux auxquels on essaie d'analyser la liberté, liberté politique, liberté économique, etc., les différentes questions de la liberté peuvent se contredire. L'analyse marxiste avait toujours opposé les libertés formelles aux libertés réelles. Ça, évidemment, ça a un sens. On peut aussi se demander ce que signifie exactement l'égalité. Est-ce que l'égalité, c'est l'égalité des chances, l'égalité des revenus, l'égalité des droits ? Est-ce que c'est tout à la fois ? Est-ce que les différentes conceptions de l'égalité ne se contredisent pas elles-mêmes, parfois ? Et puis, est-ce que l'égalité et la liberté peuvent coexister absolument ? On sent bien que non. Mais dans quelles limites ? Bon, déjà, les deux premiers termes de la devise de la République posent plus de problèmes, en un sens, qu'ils n'en résolvent. Mais le troisième problème, le troisième mot d'ordre, la fraternité est hautement problématique, pour de très nombreuses raisons. Il y en a une fondamentale, enfin, anecdotique en un sens, mais quand même réelle, c'est-à-dire que la République s'est fondée sur la mise à mort du roi, qui, très longtemps, a été l'incarnation paternelle par excellence. Donc, en un sens, nous sommes devenus frères parce que nous avons tous tué le roi, c'est-à-dire tué le père. Alors, bien entendu, beaucoup d'ethnologues et de sociologues nous diront que c'est une bonne manière de fonder la fraternité, mais c'est une manière conflictuelle. Deuxièmement, ceci crée évidemment le désir refoulé d'un père, c'est-à-dire de l'abolition, d'une certaine manière, de la révolution. C'est un fantasme récurrent dans la société française. Et puis surtout, une fraternité suppose non seulement un père, mais un père reconnu par tous et une communion mutuelle entre les frères. Car en fait, les frères, la littérature en est pleine, les frères sont souvent ceux qui se tuent pour occuper la place du père. Donc la fraternité peut être la source du conflit. Il n'y a pas besoin de remonter à l'époque mérovingienne pour s'en apercevoir, ni de relire Shakespeare. Donc tuer le frère, c'est une manière de vivre la fraternité. Alors comment est-ce que nous pouvons établir une fraternité positive entre nous? C'est un programme, en quelque manière, je n'ose pas dire surhumain, je dirais surpolitique. C'est largement au-delà de ce que l'analyse des forces politiques permet de concevoir. Donc la fraternité pose la question du père, elle pose la question de la communauté, elle pose la question d'une fraternité non conflictuelle. Alors là, il faut évidemment se demander de quelles ressources nous disposons. Et dès lors se pose un problème qui, à mon avis, ne peut pas faire l'économie du passage à ce que Pascal appelait le troisième ordre, c'est-à-dire l'ordre qui est au-delà de l'ordre des corps, du pouvoir et des richesses matérielles, au-delà de l'ordre de l'intelligence, de l'ordre de la sagesse, de l'ordre de la science, de l'ordre intellectuel, touche à l'ordre de la charité, c'est-à-dire de la communion, c'est-à-dire de la religion, ou des religions, si on y tient, c'est-à-dire d'un niveau de réalité que, par définition, les ordres inférieurs ne voient pas, mais qui, pour Pascal, de manière absolument évidente, régit non seulement son propre ordre, mais les ordres inférieurs. Et peut-être que la difficulté que rencontre la société française, c'est qu'on ne peut pas faire comme si le troisième ordre n'existait pas.
Et vous pensez qu'elle fait comme s'il n'existait pas?
Elle a essayé de faire comme s'il n'existait pas. Elle n'a pas été la seule. Parce que, sans faire de la géopolitique trop facile, on peut dire que nous arrivons quand même au bout du projet des Lumières, contre lequel je n'ai rien en particulier, qui a ses succès, ses présupposés, ses réussites et ses limites. L'un des corollaires du projet des Lumières était le suivant. Plus la rationalité augmente, plus la richesse est des nations et le niveau culturel des populations et, je dirais, la moralité générale augmentera. Et ceci de manière irréversible. Et donc, moins les religions n'auront de rôle irréductible et indispensable. Alors, ce projet s'est développé dans une certaine partie de l'humanité, dans la partie, selon le critère la plus développée. Ce projet a commencé, disons, au XVIe, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, mais il s'est lui-même ruiné avec la guerre de 1914. La guerre de 1914, qui a été une régression à tout point de vue, qui résultait non pas d'un manque de rationalité, mais de l'accomplissement total du rêve rationnel des nations les plus développées, qui a été la première guerre rationnelle, la première guerre industrielle, la première guerre complètement réussie. Sans que l'on sache qui l'a véritablement voulu et s'il y a d'ailleurs des acteurs qui l'ont véritablement voulu. Et au cas où on n'aurait pas compris, cette guerre a duré 40 ans, puisqu'elle s'est continuée directement jusqu'en 1944, 1945, et peut-être même encore plus longtemps si on y ajoute la queue de comète que fut la guerre froide. Donc, le projet des Lumières, en un sens, s'est révélé en montrant que la rationalité telle que la modernité l'a conçue, et encore une fois avec succès, car personne ne nie que le développement technique ait été, à sa manière, par rapport au projet qu'il avait, absolument réalisé, et donc un succès. Et ce projet des Lumières a démontré, à contrario, que l'accroissement de la rationalité technique, l'accroissement de la richesse des nations, ne signifie pas, on pourrait ajouter l'augmentation du niveau d'éducation, ne signifie pas l'amélioration de la moralité privée et publique, qui n'a aucun rapport entre les deux. Et d'une certaine manière, on peut dire que depuis l'entre-deux-guerres, encore plus après la Seconde Guerre mondiale, notre confiance envers la technocratie a été un aveuglement, car nous avons cru que la neutralité technique allait encore une fois nous dispenser d'affronter les questions éthiques. Nous avons cru que les questions éthiques allaient, en quelque manière, se dissoudre dans la rationalité technologique. Et beaucoup sont encore convaincus de cela. Et je pense que c'est une erreur dramatique, qui d'ailleurs ne peut pas perdurer. Et c'est ce qui explique la double menace que fait peser sur nous ce qu'on appelle bien maladroitement le retour du divin ou le retour du religieux, qui d'ailleurs ne se limite pas à l'islam, qui vaut aussi pour la reformulation du judaïsme, mais aussi la découverte que le bouddhisme n'est pas une religion si pacifique qu'on nous le disait, etc. Et d'autres formes de fondamentalisme religieux, par exemple d'origine chrétienne, protestante. D'ailleurs, curieux que le fondamentalisme soit finalement plus protestant aujourd'hui que catholique, contrairement à ce que l'origine de la réforme avait laissé supposer. Pourquoi est-ce qu'il y a une double menace ? Ben, la première, c'est de s'apercevoir que les religions ont peut-être été recouvertes pendant un temps d'un sarcophage de Tchernobyl, mais que les réacteurs fonctionnaient encore. Donc dans le cas de l'islam, il y a eu la colonisation, enfin une certaine décadence de l'islam ottoman, puis la colonisation, puis les régimes laïcs soutenus par la guerre froide, et puis finalement le retour à la situation antérieure, où la détermination religieuse ou supposée religieuse redevient prégnante dans les orientations politiques. Donc il y a l'idée que le cadavre de Dieu bouge encore, comme disait Georges Suffert il y a longtemps, et qu'il bouge même beaucoup. Et c'est quand même une surprise énorme qu'après deux ou trois siècles d'Aufklärung, la bataille change d'âme, de quelque manière, elle se retourne. Alors il y a donc une menace. Et c'est ressenti du moins comme une menace. Donc, ce qui explique d'ailleurs l'agressivité étonnante d'une partie de l'opinion publique en France, sans doute ailleurs aussi, à s'imaginer que toute religion est identitaire, menaçante, etc. Étrange parce que ce sont les mêmes qui disent que par exemple, il n'y a plus de catholiques, et puis qui disent aussi qu'ils sont très menaçants.
Il faut le dire, oui, vous soulevez un certain nombre de paradoxes.
Mais la vraie menace, elle est plus grave. C'est que nous sommes en train de nous demander si notre principale faiblesse, nous, les sociétés postmodernes, avancées, elles le sont, remarquables en un sens, ne souffrent pas d'un déficit énorme d'éthique. Il ne s'agit pas de morale répressive, il s'agit de capacité de choix entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux même, et que ces capacités cette capacité de choisir, nous en sommes en un sens volontairement privés. Et il y a beaucoup d'indices qui corroborent cette hypothèse, en particulier la fascination que peuvent exercer des idéologies extrêmes sur des jeunes gens ou des vieux, peu importe, qui sentent instinctivement le vide, de cénotaphe de notre société. Le père Gaston Fessard avait écrit un livre durant la guerre à propos du nazisme, « France, prends garde de perdre ton âme, de perdre ta liberté, de perdre ton âme ». Oui, la France, d'une certaine manière, a perdu son âme. Et j'ai fait ce rapprochement quand j'entendais l'ancien président de la République en appeler à l'âme de la France. C'était émouvant, pathétique et un peu ridicule, puisque lui-même ne croyait sans doute pas qu'il en avait une d'âme, et a fortiori, comment pouvait-il assumer qu'il y avait une âme d'une collectivité qui peut-être n'existe plus, à savoir la France. Donc, nous sommes dans cette situation, et c'est une situation qui n'est pas de crise, qui est de décadence. Et il faut quand même commencer par l'identifier.
Oui, parce que dans ce qui empêche cette quête de communion aujourd'hui, il y a des termes qui reviennent quand même, nation, France, communauté nationale. Est-ce qu'avant d'essayer de lui retrouver une âme comme solution, simplement reconnaître que celle-ci existe, ce ne serait pas déjà un premier pas, car j'ai l'impression qu'on est passé quand même au stade... au statut suivant. C'est-à-dire que non seulement on a voulu construire cette communauté sans principe spirituel unificateur, mais on en est plutôt maintenant à déclarer qu'elle n'existe même pas.
Oui, bien sûr. Je veux dire, il y a la France, qu'est-ce qu'on en dit ? On en dit qu'il n'y a pas une culture française. Heureusement que les étrangers nous disent le contraire de manière continue. Qu'il n'y a pas... une race française, qui est vrai, si on l'entend biologiquement, c'est tout à fait exact. Mais peut-être qu'il fut un temps où la notion de race, d'ailleurs je le signale, dans la langue classique, elle n'a pas de sens biologique. C'est une interprétation moderne de la race qu'elle est biologique. Enfin, on nous dit qu'il n'y a pas d'identité nationale, qu'il n'y a pas d'histoire nationale, qu'il n'y a pas une langue française non plus. Il faut admettre autant de langues régionales, même s'ils ne sont pas des langues, que possible, etc. Alors, la diversité, évidemment, c'est un enrichissement. C'est un enrichissement si elle enrichit quelque chose. Si la diversité reste une diversité, elle n'enrichit rien. La diversité n'a de sens que par rapport à une unité. Et comme c'est une unité qui n'est pas faite de termes identiques et homogènes, elle ne peut se faire que volontairement. Elle ne peut se faire donc volontairement que sur la base d'une communion, d'une manière ou d'une autre. Et alors, si nous dénions toutes les raisons d'entrer dans une communion, ben nous dénions la possibilité d'une fraternité entre les citoyens de nationalité française.
En fait, en vous écoutant prononcer cette sorte de litanie, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'identité nationale, il n'y a pas de culture française, on en vient se demander si le fond du problème, ce n'est pas une sorte de pulsion de négation, une pulsion nihiliste. Parce que on retranche, pour maintenir la cohésion, on imagine que la cohésion se fera par la soustraction plutôt que par l'adhésion ou l'addition même.
Mais voilà. C'est un phénomène qu'on retrouve pas seulement en France. Hein. Les États-Unis sont en ce moment en train de développer cette logique très inquiétante. Et beaucoup de pays, on voit bien, essaient de lutter contre cette désagrégation en pratiquant, par exemple, une des solutions les plus simples, c'est un nationalisme superficiel.
Oui, ça c'est l'autre possibilité.
Oui, oui, par exemple. Mais là, c'est un système, enfin, c'est une tactique régressive.
Vous parlez d'un nationalisme cocardier, par exemple, c'est ça ?
Oui, mais je veux dire la Russie, la Turquie. Réduit
aux couleurs.
La Hongrie, la Grande Serbie. C'est très facile de faire ça, mais ce n'est évidemment pas une solution, puisqu'elle a échoué en 1914. Donc, actuellement, nous sommes dans un système, c'est que si un pays, par exemple le nôtre, veut continuer à exister, il doit avoir une unité, et cette unité, il ne peut plus la fonder, je l'admets parfaitement, sur des données historiques de fait indiscutables. On doit la fonder donc sur un accord, et un accord profond. Et cet accord relève de ce que j'appelle la communion. Alors vous me direz, c'est un terme religieux. Je dis bien, c'est un terme religieux, mais il faut prendre les choses là où elles sont. Et donc peut-être qu'à moins d'une nouvelle cérémonie de la fédération, comme au début de la Révolution française, enfin d'un acte d'adhésion volontaire à une communion minimale, qui sera donc métapolitique au sens habituel de politique, peut-être que la France ne peut pas survivre. Il faut bien le... Et d'ailleurs, on le mime. On a essayé de le mimer. Les manifestations après les attentats n'ont aucun contenu réel, mais c'est un effort désespéré, pathétique, voire un peu ridicule, de recréer pendant quelques heures, une telle communion. Mais là, la question est de savoir qu'est-ce que l'État peut faire. Et je pense que l'État ne peut pas tout faire, et en particulier qu'il ne peut pas faire ça.
Alors qui ?
Les hommes qui sont capables d'atteindre au niveau de la communion, qui ont une pratique de la communion. Et c'est là que je pense que les chrétiens, enfin que les hommes qui ont un arrière-fond religieux, en général, que les chrétiens en particulier, et tout spécialement les catholiques, ont un rôle à jouer. Et pour une raison d'une simplicité évidente, c'est que la pratique de la communion, comme on dit maintenant, est dans leur ADN. C'est-à-dire... Le chrétien, et en particulier le catholique, est quelqu'un qui apprend à passer, je dirais, de la communauté subie. Je veux dire des relations sociales qui sont obligatoires, relations professionnelles, obéissance aux règlements administratifs, système scolaire, système financier, etc., que j'appellerais la communauté passive. La communauté obligatoire, sans laquelle on n'est pas, comme on dit, socialement intégré. Tout le monde sait bien que cette intégration sociale n'empêche pas la solitude. Ça n'a aucun rapport. Alors, les chrétiens font l'expérience d'une communauté volontaire. C'est la communauté volontaire des croyants qui participent au même mystère, de la révélation de Dieu, de l'incarnation, de l'assimilation, enfin, de l'union à Dieu, etc., dans la pratique religieuse, liturgique en particulier, et par voie de conséquence, ils s'intègrent volontairement dans une nouvelle forme de communauté qui est basée sur la communion, qui est en quelque manière une expansion de la communion. Donc, c'est les groupes d'entraide, les groupes d'apostolat, les groupes, les écoles, les hôpitaux, toutes formes d'engagement qui sont, en quelque manière, l'effet induit de cette communauté volontaire. Reprenons cette formule, il y a la communauté involontaire, qui est la communauté sociale et civique, et puis la communauté volontaire, qui est la communauté au sens strict de la communion. Alors, entre les deux, il y a des degrés. Il y a aussi les associations sportives, les associations de tout poil. Mais je veux dire, le problème est celui de la communauté volontaire. Et si je puis dire, La communauté volontaire, elle est facultative pour beaucoup de nos concitoyens, elle est impérative pour les chrétiens.
Expliquez-nous cela.
Ben, les chrétiens, ils vont à la messe, ou ils vont au temple, ou bien les juifs vont à la synagogue, ou les musulmans vont à la mosquée. Et là, ils font une communauté qui est basée sur le fait qu'ils prient ensemble, un même père. Et donc, ils ressortent de là, pour le meilleur, parfois pour le pire, mais surtout pour le meilleur, ils ressortent de là appartenant à une autre communauté volontaire, qui est basée, selon les différentes croyances, sur une, si je puis dire, une participation, une validation qui vient du Père réel qui est Dieu. Donc, cette communauté volontaire devient une communion dans l'esprit. Et donc, ils ont la culture de la communion. Et alors, moi, je dis que je ne dis pas qu'il faut que tout le monde devienne croyant. Je ne dis pas qu'il faut que les catholiques gouvernent la société française. Loin de moi, cette horreur. Je dis que dans une situation de déficit de l'unité nationale, où ce qui manque, c'est ce qui permettra la communauté, il faut faire confiance à ceux qui pratiquent la communion. Et que le réflexe au nom du combat laïque, que je comprends très bien, vu les circonstances, au nom du combat laïque, qu'on se méfie de l'apport positif des communautés religieuses, est une erreur politique. C'est pas seulement une faute spirituelle, c'est une erreur politique. Il faut leur laisser, aux croyants qui pratiquent la communauté volontaire et qui donc savent ce que c'est que la communion, il faut leur laisser la possibilité d'agir le plus possible. Car ceux qui vont faire du, pour reprendre ces horribles expressions, du vivre ensemble, eh bien c'est eux qui peuvent le faire. Ceux qui feront du dialogue entre les minorités et les communautés, c'est eux qui pourront le faire. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur.
Je comprends votre raisonnement, mais si je vais me faire l'avocat du
diable.
Si je me place du côté d'un laïc convaincu, de quelqu'un qui y a une méfiance instinctive à l'égard des religions, et spécifiquement des communautés religieuses, mais pas au sens des cisterciens ou des bénédictins, mais des communautés ayant une foi, je peux comprendre qu'ils se disent « Bon sang, ces gens-là sont en train de construire une communauté alternative à la communauté nationale.
Ils ont
un plan B dans lequel on puisse se réfugier éventuellement, voire même pour certains d'entre eux, l'utiliser comme une
machine
de conquête ou de désagrégation. Et toute la difficulté aujourd'hui, je crois que je fais injure à personne en disant et en ressentant moi-même que autant le problème avait à peu près été résolu avec les chrétiens, peut-être en raison d'un certain affadissement d'ailleurs, autant ces questions-là ressurgissent parce qu'il se trouve qu'on est confronté à des gens qui, eux, ont une foi encore un peu plus affermie, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de leur part de quelques valeurs, et ils y croient pour de bon, ils considèrent que cette norme-là est supérieure à celle qui peut sortir du contrat social, ce qui est peut-être plus tout à fait ou plus subtil chez les chrétiens. Mais là, il faut peut-être en venir à l'un de vos chapitres, celui que vous consacrez à la séparation.
Oui, mais je pense que là, ce que vous dites, cette question est tout à fait juste, hein, cette objection est tout à fait juste. Bon, en d'autres termes, ce système, ce que je viens de dire, ne peut fonctionner que si les gens qui pratiquent la communauté active, donc les gens qui sont les spécialistes, si je puis dire, les experts en communion, donc des gens qui ont un arrière-fond religieux sérieux, lorsqu'ils travaillent à rétablir une unité, une certaine unité, une cohésion dans la société, ne le fassent pas contre la totalité de la communauté, contre le reste de la communauté nationale et contre l'État. C'est-à-dire, il faut qu'ils ne s'organisent pas en contre-État. Alors, ici se pose le problème de savoir si, de fait, les religions ne font pas ça. Admettent qu'elles ne sont pas un contre-État. Alors, il faut être ici tout à fait clair. Certaines ne l'admettent pas. Bon, l'islam, du moins l'islam sunnite, je pense que malheureusement l'islam chiite aussi, n'admet pas, il est l'objet du combat des laïcs, parce qu'il n'admet pas non seulement la laïcité, mais la séparation entre l'autorité religieuse et le pouvoir politique. Alors, quelles sont les religions qu'il admet ? Eh bien, celles qui admettent le concept théologique, car il est théologique, de la séparation. La séparation, à savoir, celui qui a le pouvoir politique n'a pas l'autorité religieuse et peut être jugé par l'autorité religieuse. Celui qui a l'autorité religieuse ne peut pas la convertir, si je puis dire, la transformer en pouvoir direct. Bon. Cette thèse est une thèse qui était totalement étrangère au monde ancien, où, bien entendu, tous les rois, tous les dictateurs, tous les empereurs voulaient être aussi, avoir un pouvoir religieux, se faisaient diviniser, se prétendaient avoir une généalogie divine, etc., etc. Enfin, chose tout à fait classique. L'endroit où la séparation s'est faite, c'est dans le peuple juif, lorsque les juifs sont entrés en terre promise, et où s'est posé le problème de la royauté. Et alors, les textes bibliques sont tout à fait clairs. Le roi a été investi par un prophète qui lui a dit que c'était sous condition et qu'il n'avait pas l'autorité religieuse, c'est lui le prophète qui l'avait. Et même le grand prêtre était encore distinct du prophète pour que je peux dire, les choses soient tout à fait claires.
C'est déjà trinitaire.
Et le Nouveau Testament a repris ça, et quand les chrétiens ont commencé à apparaître, immédiatement, le problème s'est posé de savoir si c'était l'empereur qui était Dieu ou si c'était Dieu qui dispensait de donner la toute-puissance à l'empereur. D'où le conflit des premiers martyrs. Et quand les empereurs sont devenus chrétiens, ça a continué, parce que les empereurs ont immédiatement voulu, quelques chrétiens qu'ils fussent, reprendre, annexer le pouvoir politique. Et ça a traversé toute l'histoire de l'Europe moderne. Donc, nous savons très bien que la séparation est un concept théologique qu'il faut toujours rétablir et dont il faut toujours convaincre à la fois les pouvoirs, les tenants du pouvoir politique, et même les autorités religieuses qui aimeraient bien avoir un peu de pouvoir politique par l'intermédiaire de l'autorité religieuse. Bon, alors nous savons très bien tout ça. Donc la séparation, c'est un défi qui rend possible l'État moderne et qui est difficile à accepter à la fois pour l'autorité politique et à mettre en force à respecter pour l'autorité religieuse. Et le paradoxe, c'est qu'il n'y a guère que dans les pays qui ont été christianisés que le principe de séparation, non seulement est appliqué, mais est simplement compris. C'est-à-dire en dehors des pays qui n'ont pas été judéo-christianisés, si je puis m'exprimer ainsi, ce concept n'a pas grand sens. Ça n'a pas grand sens en Asie, ça n'a pas grand sens dans l'islam, ça n'a pas grand sens dans les sociétés primitives, etc. Donc il faut bien comprendre que, c'est un curieux paradoxe, que la séparation des pouvoirs, qui est quand même le pouvoir religieux et l'autorité, pouvoir politique et autorité religieuse, cette séparation étant une position théologique judéo-chrétienne, n'a de sens que dans les pays qui ont été d'une manière ou d'une autre évangélisés. Et ce qui fait que le combat laïque a une curieuse situation, c'est-à-dire qu'il est dépendant de son adversaire. Là où son adversaire n'a pas œuvré, la chose n'est... Donc, en un sens, le combat laïque anti-religieux est un des meilleurs produits d'une bonne théologie politique chrétienne. Voilà le paradoxe. Et c'est pour ça que je dis que l'État devrait faire confiance aux gens qui savent théologiquement leur rôle, la place du pouvoir politique et le rôle et la fonction de la communauté religieuse, qui ne sont pas en contradiction si on les comprend correctement. Alors, que non seulement une bonne part des idéologies islamistes fondamentalistes ne le comprennent pas, je le sais, que d'autres religions ne le comprennent pas, je le sais, que même parmi les chrétiens, il y en a qui ne soient pas tout à fait au courant, c'est fort possible, mais il n'empêche que la bonne position, c'est celle-là. C'est-à-dire que les chrétiens... Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens, d'ailleurs, tiennent à la séparation ? C'est-à-dire, sitôt que, d'un point de vue chrétien, on tend à identifier les deux, on tombe d'abord dans l'idolâtrie, puisqu'on est obligé de diviniser au moins partiellement, au moins implicitement le pouvoir politique, ce qui est donc une idolâtrie au sens strict. Mais en plus, on sort de la situation normale des chrétiens, c'est-à-dire ils sont citoyens d'une cité invisible encore à venir, quoique déjà réelles, et ils ne sont, comme disaient les pères anciens, ils ne sont que les métèques, c'est-à-dire, comme on dit aux États-Unis, les résidents étrangers, les gens qui ont un permis de séjour permanent, une carte verte, d'une société humaine. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? C'est un citoyen d'un pays qui n'est pas encore visible et qui a une autorisation de séjour permanent dans une communauté politique visible, mais qui n'est pas très réelle. Bon. Alors, si les chrétiens comprennent ça, ils comprennent très bien leur rôle dans une société. Ils ne sont pas leurs rivaux. Ils ne vont pas construire une société rivale de la société dans laquelle ils se trouvent. Ils ont une autre citoyenneté. En attendant, ils sont résidents permanents d'un pays et quand on est dans un pays qui n'est pas celui véritablement auquel on appartient, on paie ses impôts, on obéit aux flics, on ne se fait pas remarquer, on fait bien son travail.
On est loyal.
On est loyal, on est un très bon citoyen. Et comme disait Justin, les chrétiens, christianoi en grec, sont les citoyens les plus utiles, krestotatoi, c'est-à-dire, comme dit Tertullien, vous vous plaignez qu'il y ait trop de chrétiens dans votre cité, faites attention, si on n'était pas là, la cité ne tournerait pas. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu une fois à Chicago, où il y a beaucoup de travailleurs sans papier, des Mexicains, enfin des Hispaniques, et qu'ils avaient des problèmes parce qu'on voulait les embêter parce qu'ils n'avaient pas de papier. Alors un jour, ils se sont tous mis en grève. Et alors d'un seul coup, Chicago ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus de conducteurs de bus, il n'y avait plus de nettoyage, il n'y avait plus de restaurants, il n'y avait plus rien. Eh bien, les chrétiens sont un peu dans le rôle de travailleurs immigrés, résidents plus ou moins dotés de papier dans une société qui, au bout du compte, n'est pas la leur.
Oui, c'est l'un des paradoxes que vous soulignez, parce que on a l'impression que le côté fécond, finalement, de cette pensée ou cette manière d'être et d'appartenir à la cité des chrétiens est fondée précisément sur le paradoxe. Ils en sont sans en être, ils sont dedans, mais pas tout à fait. Ils infusent cette société, mais qui leur est quand même extérieure. Il y a une citation que vous placez en tête du troisième chapitre, si je ne me trompe pas. Les chrétiens manifestent la stupéfiante constitution de leur citoyenneté, dont tous conviennent qu'elle est paradoxale. Oui, parce que finalement, ils ne sont pas des garde-fous, justement, parce que...
C'est l'épître à Diognète. Ils ne
peuvent pas avoir d'adhésion complète à quoi que ce soit, donc ne pas tomber
une sorte de
garde-fous contre...
D'une certaine manière, ce sont des esprits critiques. Parce que quand... un chrétien conscient devrait être totalement réfractaire à l'idolâtrie. C'est-à-dire, aucun homme ne peut prendre la place de Dieu. En particulier, aucun leader politique. Aucun idéal, même économique, ne peut être absolutisé. Donc, ce sont des gens extrêmement raisonnables, assez sceptiques, finalement. Un peu critiques. Et alors, ils ont aussi... cette autre qualité, c'est qu'ils trouvent normal de se dévouer, ce qu'un sceptique ou un cynique ne trouve pas normal, de se dévouer à autrui et parfois jusqu'au bout. Donc ils ont la qualité du sceptique, le quant à soi du cynique, du stoïcien, et puis en même temps le dévouement un peu fou, de celui qui ne compte pas sa peine et qui est prêt éventuellement à se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Donc ces deux qualités contradictoires en font, si ce sont de bons chrétiens, en font d'excellents citoyens. Mais il veut bien mourir pour sa patrie, mais il ne veut pas considérer que sa patrie est un dieu. Il veut bien vivre dans une relative pauvreté si le bien commun l'exige, mais il ne va jamais considérer que la richesse soit un idéal absolu. Donc, je trouve que le bon chrétien a des caractéristiques tout à fait contradictoire et remarquable.
On commence à pressentir que le portrait que vous dressez du chrétien idéal, hein, on a bien compris que chacun d'entre eux certainement reflète à des degrés divers ses qualités, s'en éloigne plus ou moins, est d'une extrême exigence.
Mais je veux dire, si vous n'avez pas un modèle extrêmement parfait, exigeant, vous n'avez plus de modèle du tout. Donc, il y a aussi une remarque que je voudrais faire à propos des chrétiens par opposition aux juifs, aux musulmans, aux athées, etc. C'est que les gens parlent des chrétiens, en particulier des catholiques, comme s'il y en avait. Mais il faut bien comprendre que des chrétiens, ça fait vraiment partie de la théologie chrétienne, il n'y en a jamais eu un seul juivement pur. Un seul. Tous les autres, c'est par analogie, par approximation, par extension du terme, par métaphore, à des degrés, etc. Dire « les catholiques pensent ceci », par exemple, comme font les sociologues, ça n'a aucun sens. Parce que d'abord, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, et deuxièmement, on ne sait même pas qui est catholique. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit « je suis catholique », en un sens, on peut être sûr qu'il ne l'est pas vraiment. Parce que quelqu'un qui est vraiment catholique, il le dit je suis un petit peu, enfin, dans une certaine mesure, mais ne faites pas une enquête sur moi, je ne suis pas représentatif. Bon. Évidemment, donc, un catholique, c'est toujours un catholique sur la marge.
Oui, c'est le cas de tous les groupes humains, d'ailleurs, on pourrait dire.
Bien entendu, bien entendu, mais surtout là, puisque le paradigme est tellement élevé qu'il est impraticable. Donc, il y a une espèce d'illusion à s'imaginer. Quand on fait des enquêtes sur les cathos, c'est une vision, pour ainsi dire, raciste et identitaire des choses qui non seulement est, comme on dit, nauséabonde, mais qui surtout n'a aucune pertinence.
Oui, c'est comme si c'était les derniers qui avaient une essence. On explique personne n'a d'essence, mais eux, oui, d'accord, ça... C'est compris. Toutefois, dans cette exigence, on la sent très fortement à la fin du livre, lorsque vous développez une réflexion autour du don. Ce qui est aussi une des questions centrales, puisque vous avez dit la communion, parce qu'on se tourne vers les autres, on a une capacité à les aider, à donner. Et lorsque vous développez cette définition du don, on voit que là aussi, elle est extrêmement exigeante. C'est-à-dire que don gratuit, ça devient quelque chose de quasi-spirituel.
Mais c'est quelque chose de quasi-spirituel. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que le don n'est pas seulement quelque chose de très spirituel, mais le spirituel est parfois inévitable. Et il y a un grand principe. C'est que nous ne pouvons rien posséder. Ça semble un paradoxe, mais nous ne pouvons rien posséder. Nous ne possédons, nous ne jouissons que de ce que, d'une certaine manière, nous donnons ou nous partageons. C'est le paradoxe de l'avare. L'avare, c'est celui qui possède et qui ne dépense jamais. Donc, c'est celui qui ne jouit jamais. Et la jouissance, par la richesse, ça signifie toujours qu'on dépense. Alors, tout est dans la manière de dépenser. Mais beaucoup de gens vous diront que si vous ne dépensez pas, ça ne sert à rien et vous êtes malheureux. Vous êtes pauvre comme les pierres, vous êtes malheureux comme les pierres, vous êtes pauvre. Bon. Si vous dépensez pour vous seul, vous êtes frustré. Parce que, en dehors du côté masturbatoire de la chose, même le pire des individus veut au moins épater les autres en montrant qu'il est très riche. Donc il a besoin des autres pour être riche. Et pour que les autres ne se contentent pas de vous détester et de vous envier, il faut faire la fête avec eux. Donc il faut dépenser avec l'autre pour jouir de ce qu'on possède. Et on va même aller plus loin. Si vous voulez sauver vos possessions, les garder, le collectionneur, il faut les transmettre. C'est d'ailleurs un des problèmes des gens qui sont extrêmement riches. C'est le problème de savoir qu'est-ce que tout ceci va devenir, qui est le meilleur de moi-même, quand je ne serai plus là. Donc l'idée que le don est la vérité de la possession, ça peut paraître un paradoxe, mais c'est absolument pas un paradoxe. Alors vous me direz, c'est très spirituel, mais la réalité est spirituelle. C'est très idiot de s'imaginer que la possession, que le non-don, soit le rapport à la jouissance le meilleur. On peut dire que c'est la dépense gratuite avec autrui qui est la plus haute destination de la possession. Donc, moi je...
Même dans l'ouvrage, vous allez plus loin, vous ne posez pas seulement le don à la possession, vous opposez le don gratuit au don dans l'espoir d'un retour sur investissement, et on termine par, en fait, quasiment une apologie, je ne sais plus si c'est le terme, de l'abandon.
Oui, mais, je veux dire, quelle est la plus grande jouissance intersubjective ? C'est de pouvoir vous abandonner à quelqu'un sans peur. Donc l'abandon, ce qui est très difficile à faire, l'abandon réussi, je pense que c'est ce que tout le monde appelle la paix, la jouissance, la sérénité, etc. Et c'est ce qui est le plus difficile à atteindre. Donc, je veux dire, le pragmatisme et l'égoïsme me semblent de plus en plus, c'est peut-être le bénéfice de l'âge, après tout, quelques sagesses me viendraient sur le tard, sont en fait des tactiques tout à fait illusoires. Tout à fait illusoire. C'est intéressant de voir les angoisses, les questions et les comportements de ceux qui sont véritablement riches. C'est-à-dire, now what? Et ce sont des choses que j'ai découvertes récemment.
Pour revenir sur cette question du don et surtout de la possession, il y a tout un passage où vous expliquez, c'est peut-être aussi l'un des fondements les plus profonds du sentiment d'angoisse, vous en parliez, que nous ressentons. C'est vrai que ce qui caractériserait l'homme contemporain, l'homme contemporain, c'est le sentiment de se posséder lui-même. Il faut trouver un antidote à ce sentiment-là. Pourquoi est-ce que se posséder soi-même finit par poser problème, et aux individus, et finalement... communauté entière.
D'abord, se posséder soi-même, l'autonomie absolue, il présente deux inconvénients. Premièrement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il y a au moins une chose que je ne posséderai jamais, c'est ma naissance. Ou bien parce qu'elle est arrivée en un sens par la complexité des rencontres et des hasards entre deux individus de sexes différents, ou bien parce qu'elle a été bricolée techniquement, mais de toute façon, je n'aurais pas décidé. Personne n'a décidé, comme dit saint Augustin, de sa naissance. Cette contingence-là, elle est irréductible, et c'est la base d'ailleurs de toute la... Parce que, vous voyez, quand on veut abolir la filiation, très bien, bon, abolissons la filiation, mais le gros problème, c'est que la filiation, c'est pas parce qu'il y a un monsieur qui était le papa, biologique, la filiation, c'est que je ne suis pas à l'origine de moi-même. Bon, alors, qui est pas de père, ça n'empêche pas que le problème de la filiation reste de plus en plus prégnant, obsédant. Bon, j'aurai toujours un problème de filiation. Si je n'ai pas de père, ça ne fera que l'aggraver. Mais je veux dire, de toute façon, bon, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que supposons que j'atteigne l'autonomie, alors c'est l'emprisonnement. C'est-à-dire que je n'ai aucune raison, et peut-être aucune possibilité, d'avoir la moindre communion avec quelqu'un d'autre. L'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est qu'il n'y ait pas d'autres. Alors peut-être que Sartre a toujours vécu en enfer, ce qui expliquerait beaucoup de choses. Mais l'enfer, c'est justement le fait que je n'ai pas accès à autrui. Et c'est pour ça que les gens souffrent de solitude. Donc si on pouvait être autonome, on souffrirait d'autonomie. Et heureusement qu'on n'est pas autonome. Donc je dois avouer que... je suis persuadé que... Quand il y a une revendication d'autonomie, ce que les gens veulent simplement dire, c'est que je ne veux pas de l'hétéronomie, c'est-à-dire que je ne veux pas que quelqu'un me dise ce que je dois penser. Bon, si c'est ça, très bien. Mais...
ça va plus loin aujourd'hui. Le fantasme, je pensais là, d'une véritable possession de soi-même. Est-ce que vous ne pensez pas que le combat final, finalement, entre toutes ces forces en présence, sera entre ceux qui acceptent que l'homme soit imparfait, contingent, dépendant de choses extérieures à lui, que la vie lui était donnée, que ce soit par Dieu ou par autre chose, et ceux qui pensent prendre la maîtrise totale, ou qui ont le fantasme de se saisir de cela, jusqu'à s'auto-engendrer.
Écoutez, voilà. Eh bien, écoutez, nous discuterons avec le premier qui aura réussi à faire ça, et nous verrons quel est le degré de sa félicité. Alors, ce qui est possible d'ailleurs, c'est qu'on ne pourra jamais discuter avec celui-là pour deux raisons, parce qu'il n'y en aura jamais. Et deuxièmement, parce qu'il sera incapable de discuter.
Pour quelle raison ?
Ben, parce qu'il sera totalement autonome.
Il n'aura pas envie de discuter.
Il n'y aura même plus l'idée qu'on puisse. C'est-à-dire, si le rêve, le fantasme ou le cauchemar est bien celui que vous suggériez, à ce moment-là, ça veut dire que ce serait l'idée d'une non-altérité parfaite. Mais je pense que quelqu'un qui a une non-altérité parfaite, non seulement n'est plus humain, mais je pense qu'il n'est même plus, à proprement parler, vivant. Je pense qu'il n'est même plus vivant. Alors, oui, voilà, on dirait, l'animal a de l'altérité parce qu'il a des besoins. Mais c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a eu des anges mauvais, qui ont voulu atteindre la parfaite autonomie, mais ça se termine comme Satan chez Dante. Vous savez, Satan, il est gelé dans l'enfer. Il est absolument gelé et il ne peut plus bouger. Il est totalement autonome, comme un bloc de glace. Alors, non, moi, je pense que l'autonomie, non seulement c'est une folie de le vouloir, en ce sens, hein, mais c'est la folie. Très peu pour moi.
Vous pensez que c'est quelque chose qui est un trait contemporain, comme je le laissais entendre,
non.
Ou c'est un vieux fantasme de l'humanité ?
Ah bah, c'est un vieux fantasme de l'humanité. Bon, on peut dire que le récit de la Genèse et de la faute originelle est basé là-dessus. C'est toujours l'idée que je ne dois rien à personne. C'est l'idée « je ne dois rien à personne ». Rien à Dieu, mais rien à mon prochain non plus. En philosophie, d'ailleurs, ce fantasme est si fort que la métaphysique classique est allée jusqu'à dire que, d'une certaine manière, Dieu est cause de soi. Ce qui est une contradiction dans les termes. Descartes en convient tout à fait quand il emploie le terme. C'est une contradiction logique, temporelle, etc. Mais c'est le fantasme de... la plus haute chose que la philosophie puisse dire à propos de Dieu, c'est qu'il est tout à fait autonome. Et projette sur Dieu son fantasme. C'est je me suis fait moi-même. Le self-made man, c'est l'idée que l'homme se fait de lui-même. Il voit pas ce qu'il y a de plus beau et parfois il l'attribue à Dieu. Enfin, il a très souvent la philosophie qu'on soit Dieu comme ça.
Il n'est pas un héritier, en aucun cas.
Oui, oui, mais et la théologie chrétienne, dans ce qu'elle a de meilleur, a ce trait de génie de dire que Dieu n'est pas autonome puisqu'il est trinitaire. Ça, c'est-à-dire que l'altérité soit en Dieu même, sans que ça mette en cause son unité, c'est quand même génial. Voilà, c'est génial. C'est génial parce que c'est une manière de tout retourner, de retourner complètement les termes de la discussion banale. Nous sommes loin des questions politiques, dites donc, cher ami.
Mais le cœur même de votre ouvrage était de laisser entendre que la crise actuelle politique ou la décadence politique ou
politique.
Du vilain vivre ensemble, du vilain mot de vivre ensemble, allait se résoudre par des solutions spirituelles qu'il s'agit d'infuser, si j'ai bien compris, dans la société.
Des solutions spirituelles, donc pratiques.
Quel conseil donneriez-vous ? Un catholique aujourd'hui qui veut s'engager, qui vous a entendu, mettons. Un chrétien, un catholique aujourd'hui, dit bah oui, finalement, peut-être que j'ai en moi une part de la solution des problèmes qui se posent à mes contemporains, à ma communauté, celle à laquelle j'appartiens, fût-ce comme un fût-ce de passage. Que doit-il faire, finalement, pour avoir ce bon rôle au service de la cité ?
Excusez-moi. Alors, premièrement, ne pas être malheureux. D'abord parce que c'est beaucoup plus agréable de ne pas être malheureux. Et puis, si on est absolument malheureux et en situation d'échec, ça limite votre efficacité à l'égard d'autrui et ça n'encourage pas à faire appel à vous. C'est comme dans les avions. En cas de dépressurisation, mettez d'abord le masque sur vous avant d'essayer d'aider les autres, car si vous n'avez pas le masque sur votre nez, vous ne pourrez pas les aider. Donc, ne soyez pas trop malheureux. Et c'est un devoir difficile à réaliser. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent se réfugier dans un malheur accusatoire. Bon. Deuxièmement, essayez d'expérimenter à fond ce que vous voudriez dire aux autres. C'est-à-dire, si la question est de susciter une communauté par élargissement de la communion, pratiquez la communion, vraiment. Il faut que vous soyez très fort là-dedans. Ce qui veut dire, troisièmement, la sainteté n'est pas optionnelle. Alors non, c'est un peu réfrigérant d'en arriver à cette conclusion, mais quand même. Alors, ce que je dirais, c'est que moi, je soutiendrai assez volontiers que se comporter comme un chrétien, cela rend intelligent. Et c'est un antidote assez puissant au malheur. Donc, je pense qu'il faut. Les gens la bonne raison d'être chrétien, c'est finalement que c'est beaucoup plus confortable que de ne l'être pas. C'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus intéressant que de ne l'être pas. Il faut être chrétien par intérêt. Pas du tout par dévouement, par grandeur d'âme, toutes ces choses. Non, non, non.
On va encore finir sur un paradoxe, alors.
C'est pas un paradoxe. Ça n'est pas un paradoxe. Il vaut mieux monter dans l'arche de Noé que de nager autour.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Je ne sais pas si nous allons tous monter dans cette arche de Noé, mais la tentation est là.
Bon.
J'invite ceux de nos lecteurs qui voudraient approfondir cette conversation et trouver des raisons d'espérer, car il y en a de nombreuses dans votre ouvrage, et par les temps qui courent, ça ne peut faire que du bien, effectivement. De se plonger donc dans la brève apologie pour un moment catholique, car oui, c'est un livre bref de surcroît, mais fécond, et qui incite à méditer ensuite longuement. Brève apologie pour un moment catholique par Jean-Luc Marion de l'Académie française, c'est aux éditions Grasset. Merci Jean-Luc Marion.
Merci.